rajouter 10 grammes de sel par litre d'eau.
Je fais cuire des petites pommes de terre nouvelles.
Et des fraises, bien sûr.
Europe 1,
hyper simple.
11h30, la table des bons vivants.
On envoie les tomates farcies. Allez.
Laurent Mariotte.
Nous voilà, bonjour à tous, bonjour les amis, soyez les bienvenus, vous le savez, vous êtes ici chez vous, du marché à la cuisine, en passant par les arrières-cuisines, nous allons prendre soin de notre alimentation jusqu'à midi et demi. L'automne est arrivé, mais les produits d'été sont toujours là, et bien nous allons récolter des quetsch en Alsace. Françoise Bernard a partagé ses recettes faciles pendant plus de 60 ans. Elle nous a quittés cette semaine à 100 ans. Nous allons lui rendre hommage avec Jean-Luc Petit-Renaud. Et puis nous allons aussi déguster une cuisine végétarienne et gourmande, rassembleuse même, avec l'auteur culinaire Triche de Seine, qui sera là en exclusivité pour nous avec son nouveau livre. Voici mes bons vivants du jour. Ils sont là. Il prend le temps de regarder la nature pour choisir le meilleur et la partager dans ses assiettes. C'est une bonne nature. Yves Candebord est là. Bonjour Yves.
Bonjour Laurent. Bonjour Olivier.
Du pain, du vin et des copains. Voilà ce qu'il a écrit au-dessus de sa cave. Il nous aide toujours à bien choisir nos flacons. C'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour Laurent. Bonjour Yves. Oui, vous avez bien lu, c'est ça.
Et vers midi moins le quart, la comédienne et bonne vivante Zabou Breitman va se mettre à table et on se réjouit. Elle brûle les planches actuellement au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris dans une très belle pièce qui s'appelle Dorothy. Petit rituel, hein, vous qui êtes des habitués de l'émission, vous le connaissez ce rituel et vous le retrouvez d'ailleurs en écoutant le podcast et en vous y abonnant sur europe1.fr. Quel est votre goût de la semaine? Je vous pose la question, Yves Candebord.
Eh ben alors, mon goût de la semaine, Laurent, c'est quelque chose de très très simple. Et souvent quand on fait des choses simples, ouais, on les banalise par rapport juste à l'émotion du goût. Et j'ai pris une claque, des bigorneaux. J'ai fait des bigorneaux cuits dans un courbouillon. Je me suis amusé, monsieur, à aller décortiquer tous avec du réfort, réfort en pot, une mayonnaise et de la cive. J'ai mis ça au réfrigérateur et au moment de l'apéro...
La cive, c'est comme l'oignon nouveau, c'est la tige verte.
C'est la tige verte. Et au moment de l'apéro, avec un bon petit blanc muscadé, on s'est mis à déguster ça et il y a eu un moment de silence.
C'est bon signe, ça, en général.
Un moment de silence et on était avec, j'étais avec quatre copains. Et on s'est regardé, on m'a dit, qu'est-ce que c'est bon les bigorneaux.
Mais c'est vrai, redécouvrons les bigorneaux et assaisonnez-les
fortement.
Fortement, voilà, merci.
C'est important, il faut les relever.
Fini ma phrase.
Et le réfort, vous savez, le réfort en plus en bocal, oui. pas du réfort frais, ça cette fraîcheur et cette puissance qui est très agréable.
Olivier.
Eh bien moi c'est une boucherie et au-delà de cette boucherie, je trouve un beau pari pour... deux jeunes qui ont eu le courage de reprendre une petite boucherie de quartier dans le 7e arrondissement, qui est située rue Pierre-Leroux. Ils s'appellent Paul et Alexis, ils sont passionnés. Ils font revivre cet établissement avec énormément d'entrain. Ils font leurs saucisses. Et j'ai goûté parmi ces saucisses une saucisse au fenouil absolument délicieuse. Je trouve que ces petits commerces de quartier qui sont les poumons de nos centres-villes, d'avoir des jeunes passionnés qui ont envie de redynamiser ça, qui sont au contact de la clientèle et qui pratiquent des prix tout à fait raisonnables, parce qu'on a un peu ras-le-bol des superstars de la boucherie qui vous vendent de la côte de bœuf.
150 euros la côte de bœuf.
150 euros.
C'est le premier prix.
Eh bien là, c'est tout à fait raisonnable. C'est la boucherie Paul et Alexis, P et A, à Paris.
Et, ben voilà.
Et on les embrasse et on les salue parce qu'ils nous écoutent.
Eh bien, c'est dit. Eh bien, mon goût de la semaine, moi, c'est un goût de mollusque, de la sèche. Une très belle sèche que j'ai vue chez mon poissonnier, sur son étal. Elle arrivait directement de Bretagne, entière. Il me l'a préparée, il me l'a vidée. Il m'a gardé l'encre de sèche. Je suis rentré à la maison. Je l'ai coupée en petits morceaux. Je l'ai quadrillée. Huile d'olive bien chaude avec de l'ail. Je les ai jetées comme ça, mais à peine 3 minutes, même pas. Et ensuite, l'encre de sèche pour réunir tout le monde avec des tomates confites. C'est délicieux, ça. La sèche, c'est la saison de
et
la sèche.
Et pas un petit peu de piment, non?
Ah si, j'avais une sauce, vous avez raison, une sauce du Pays Basque avec un chipistère bien relevé.
Pour booster le truc.
Absolument,
hein.
Pour booster, vous me connaissez bien. Bravo. Allez, direction le marché, les amis. On va à Mazières, en Ariège, avec Benjamin Peter, le correspondant d'Europe 1 en Occitanie. L'automne est-il déjà dans vos paniers? Eh bien, réponse au micro de Benjamin.
On commence le raisin, le départ des vendanges. C'est du raisin d'Hambourg et du Chasselas. C'est les premiers raisins de la saison.
Allez, écoutez, hein, c'est fait pour. Hein.
Ah, cool.
Ouais, il est bon.
Ah
ouais,
il a pris le soleil quand il fallait. Hein.
Ah ouais.
C'est l'été ou c'est l'automne, là, chez vous?
Nous, ça entre les deux encore, parce qu'on a encore des fruits de saison d'été. Et on commence l'automne. Là, avec la courge, citrouille, butternut qui sort du jardin.
Ouais.
Là, on a l'orange, la clémentine qui viennent d'arriver. Vous avez le pimpol et la fin du melon, des pêches et des nectarines. Donc, du coup, voilà.
Ah,
elle est avec ceci.
Mais vous voyez, on a pris des radis haricots verts.
Du raisin.
Qu'est-ce que vous avez préparé d'autre, savoir si je viens manger chez vous après?
Des tomates farcies.
Alors comment vous les faites, les tomates farcies?
Je fais un farci avec de la chair à saucisse, de l'ail, des œufs, de la mie de pain. Je creuse la tomate, je mets le farci, je les fais roussir à la poêle, voilà. Et après, je les mets dans une sauteuse.
Et là, on se régale.
Et là, on se régale.
Alors, 4 melons et après, vous m'avez pris les aubergines.
Ah, voilà, n'oubliez pas votre monnaie. Alors, on se régale avec ces jolis plats et on se régale avec votre accent en Occitanie. Merci, Benjamin Peter, qu'on retrouvera évidemment prochainement à la table des bons vivants. Qu'est-ce que vous aimez cuisiner, les gars, en ce moment, cette fameuse belle intersaison entre la fin de l'été et le début de l'automne?
Alors, moi, je prends énormément de plaisir parce que malheureusement, on a une période assez humide, mais grâce à ça, on a des champignons.
Mais oui.
La trompette de la mort, la girole, c'est vraiment des...
Les cèpes, on a les cèpes premiers cèpes là. Hein.
C'est ce côté voilà, très forestier qu'on retrouve dans l'assiette. Et simplement, un œuf au plat avec des champignons posés dessus, avec la suavité du jaune qui se mélange aux champignons,
c'est le bonheur.
C'est le bonheur.
Et un peu de persil, moi j'aime, non?
Un petit peu de persil.
Il y a débat sur le persil. Ah, voilà, il y a le grand trop. Débat. Aïe ou persil ou pas dans les champignons, c'est un grand débat. Qu'est-ce que vous aimez cuisiner
bah,
en ce
vous
moment,
savez, c'est les vendanges en ce moment, donc le raisin.
Le vin, ils cuisinent le vin.
On le récolte, mais il y a aussi les raisins de table, évidemment, qu'il ne faut pas oublier. C'est vrai que c'est le basculement dans l'automne. Moi, les raisins, j'adore ça. Je trouve ça, les manger pour eux-mêmes. Hein. Mais les cuisiner, il y a des choses tout à fait intéressantes. Une petite poignée de raisin, de la volaille, ça marche toujours
c'est
bien.
C'est bien, oui, mais avec l'écaille, mais pas que. Bonne fin de matinée, hein, les amis. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Ne bougez pas, on part en Alsace. Tiens, on va secouer le prunier pour récolter et cuisiner les quetschs. C'est la saison.
11h30 sur Europe 1. Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Avec sa robe bleu-violette et sa chair ferme et orangée, elle fait la transition entre l'été et l'automne. La quetsch ramène sa prune, les amis. Et c'est au quetsch hein, qu'on doit l'expression, d'ailleurs, tout ça pour des prunes, il me semble, Olivier. Expliquez-nous.
Oui, ou compter pour des prunes, c'est une expression qui date du XIIe siècle et qui est liée aux croisades. Alors, au XIIe siècle, les croisés avaient fait le siège de Damas, un siège qui s'est mal passé puisqu'ils n'ont pas réussi à prendre la ville. En revanche, qu'est-ce qu'ils ont trouvé là-bas? Des quetschs.
Des
et des prunes.
Voilà,
donc, et ces prunes, ils les ont ramenées.
Tout ça
et
pour
on
des
a
prunes.
Dit, mais tout ça pour des prunes.
Quoi. Mais d'ailleurs, la quetsch, on appelle la prune de Damas.
Ouais.
Hein. On voit ce nom écrit encore sur les variétés quand on veut acheter des pruniers pour planter dans son verger. Alors aujourd'hui, la majorité de la production française vient d'Alsace et la saison est très courte, hein, Yves.
Oui, la saison est très courte. Elle vient après la fameuse Mirabelle, qui est aussi une prune qui est assez goûteuse et très intéressante.
Et comment
et donc, je crois que Laurent la connaît bien.
Oui, très bien. C'est bien. Mais après, et la quetsch, c'est un des fruits qui va durer à peu près un mois.
C'est court.
On va en avoir sur les étals à peu près jusqu'à la fin du mois d'octobre. Cette année, c'est vrai qu'on est un peu en retard par rapport à tout ce qui s'est passé, toutes les intempéries assez délicates que les vergers ont subies.
Alors, on va aller cueillir la quetsch en Alsace avec Mélina Fachin. C'est la nouvelle correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. Et on l'accueille à la table des bons vivants aujourd'hui. Bonjour Mélina.
Bonjour Laurent, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bienvenue. Quel est votre goût
Merci.
De la semaine tiens, dans la région pour démarrer, Mélina?
Eh bien écoutez-moi, mon goût de la semaine, c'est le vin nouveau. Voilà, vous en parliez il n'y a pas longtemps. Les vendanges vont commencer cette semaine en Alsace pour les vins non pétillants. Et donc, c'est aussi le moment de déguster le vin nouveau qu'on appelle ici en alsacien le Neuer Siasseur. On peut traduire ça par nouveau sucré. Et du coup, ça porte bien son nom puisque c'est le résultat des toutes premières vendanges. On est à mi-chemin entre le jus de raisin et le futur vin. Le vin nouveau, il est trouble, légèrement pétillant, moins alcoolisé qu'un vin classique. Et d'ailleurs, il y a plein de fêtes du vin nouveau en Alsace ce week-end, le week-end prochain. Vraiment, profitez-en.
À Eguisheim, je crois qu'il y a une belle fête, il me semble.
Eh oui, notamment le week-end prochain, le 2-3 octobre à Eguisheim. Si vous ne connaissez pas encore vraiment, allez-y.
Très beau
c'est
village.
Le plus beau village de France. Ouais, c'est magnifique. Et puis, réputé pour son vin.
Mais comment? Alors, c'est la pleine saison de la quetsch, on le disait, Mélina. Elle est incontournable en Alsace,
oui.
Vous le confirmez. Hein.
Ah oui, elle est incontournable et puis elle est vraiment délicieuse la quetsch d'Alsace. Hein. Moi, je suis allée rencontrer Jean-David Bader, qui est arboriculteur à Westhofen, c'est à une demi-heure de Strasbourg. Vous parliez justement de la très mauvaise saison qu'ont vécu beaucoup d'agriculteurs avec le gel, la pluie, le mildiou. Eh bien, Jean-David, lui, s'en est bien sorti. C'est 150 quetschillés, c'est comme ça qu'on appelle l'arbre, la quetsch, ploie sous les fruits. Il est perché sur une grande échelle et il dépose les quetsch mûres dans un seau. Il les repère d'abord à leur taille, à peu près 3 cm. mètres, elles doivent être bien dodues, et puis à leur couleur, bien violette.
Dès qu'on enlève la tige, il faut qu'elle soit jaune à l'intérieur. Quand c'est vert, généralement, c'est pas bon. Quand on la tient un tout petit peu molle, disons, ferme encore, mais à l'intérieur, elle est mûre.
Donc celle-là, c'est bon.
L'ouvrir, celle-là, c'est bon.
Confirmer.
Très bonne.
Je peux confirmer aussi. Très, très bonne.
Pas trop sucré non plus, parce que beaucoup de gens préfèrent aussi ce côté acide.
Et justement, vos clients, vous les rencontrez aussi, puisque vous produisez à peu près 5-6 tonnes de quetsch par an, vous les vendez via la grande distribution, mais vous développez aussi de plus en plus la vente en direct.
Oui, parce que bon, j'aimerais quand même toucher directement la clientèle finale. Et ça me fait vraiment plaisir que chacun s'y retrouve. Moi, je suis à 2 euros le kilo, et je sais qu'en supermarché, c'est de 53 euros. Notre marge est quand même plus importante, on peut dire, hein. Et l'intérêt du client direct, c'est d'avoir un produit frais cueilli du jour. Hein.
Eh bien, on ne le dira jamais assez, hein, Mélina. Vive les circuits courts, allez chez vos producteurs. Alors, j'imagine que vous avez rapporté avec vous quelques quetschs.
Ah bah oui, évidemment, je m'en suis pas privée et j'ai fait ma traditionnelle tarte au quetsch. Bah voilà. J'ai pas fait dans l'originalité, mais c'est toujours simple et efficace.
Et ça rassure. Eh bien, merci Mélina et bonne journée en Alsace et dans le Grand Est. Et à bientôt à la table des bons vivants. Comment vous aimez cuisiner les quetsch, Yves?
Alors, comme la saison est très courte, j'aime bien que ça dure. Je les fais en pickles. 1 litre d'eau, 100 grammes de sucre, des épices, des zestes d'orange, de citron. Quand ça boue, je coupe mes quetsch en deux, je les mets bouillantes. Et je les mets au frigo. Et après, Laurent, avec un tartare de poisson, un tartare de viande, coupé en morceaux, il a bien dit, il y a de l'acidité. Et donc, j'amène de l'acidité, ça amène de la fraîcheur, ça amène un côté fruité. Et je me fais plaisir, je fais durer le plaisir jusqu'à la fin de l'année.
Et si on veut faire durer le plaisir, pensez-y aussi, chers auditeurs, ça se congèle bien, la quetsch, vous les dénoyautez, vous les mettez sur une plaque à pâtisserie dans le congélateur et ensuite vous les remettez dans des sachets. Comme ça, vous pourrez prendre la bonne quantité quand vous aurez besoin de faire des crumbles ou des tatins de quetsch.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Françoise Bernard, véritable référence de la cuisine maison, pionnière des animatrices d'émissions de cuisine, est décédée dimanche dernier à l'âge de 100 ans. Alors on va lui rendre hommage ce samedi. Nous sommes nombreux à posséder son livre « Les recettes faciles », un livre, rendez-vous compte, sorti en 1965, plusieurs fois réédité chez Hachette. Qu'est-ce que ça évoque, tiens, pour vous, Olivier, quand je vous dis Françoise Bernard ?
Oh, bah des recettes peut-être un peu désuètes quand même, faut-il bien le reconnaître aujourd'hui. Je me suis amusé à le refeuilleter, évidemment. Des recettes extrêmement simple et une cuisine, ma foi, bourgeoise dans notre temps.
C'est vrai, alors elle n'était pas du tout prédestinée à faire ses livres de cuisine, Françoise Bernard. Elle était au début chez Unilever et elle travaillait pour la marque de margarine Astra.
Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Françoise Bernard, en réalité, c'est un personnage qui a été inventé, c'est un personnage purement marketing, créé de toutes pièces, vous l'avez dit, par la marque Unilever dans les années 50. Alors il s'agissait d'incarner finalement une cuisinière qui allait prodiguer des bons conseils pour vendre les produits. Alors on a choisi le nom de Françoise Bernard parce que c'était des prénoms qui étaient très donnés à l'époque. C'est et ça. On les a collés. On est allé chercher une des secrétaires de direction du groupe. On a dit, toi, t'es une bonne tête.
André Jonquois, voilà. C'est comme ça qu'elle s'appelait.
Eh ben, tu vas devenir l'égérie. Mais en fait, elle n'était pas du tout une vraie cuisinière à la base.
Et après, Seb a récupéré Françoise Bernard, Yves.
Oui, ils l'ont récupéré. Voilà, c'est vraiment du marketing pur et dur. Mais c'est vrai que le fait de parce qu'ils vendaient des robots. Donc, ils intégraient dans les robots les recettes de Françoise Bernard, et c'est devenu, ça a inondé le marché. Mais, pour moi, c'est le premier livre de cuisine.
Mais bien sûr,
avant l'Escoffier.
Avant l'Escoffier, mais quand j'étais petit à la maison, il y avait Françoise Bernard.
Donc sur le groupe Facebook des bons vivants, vous êtes très nombreux à avoir laissé des messages d'hommage à Françoise Bernard. Vous dites, mon premier livre de cuisine qui reste toujours une référence, c'est la base de tout. Nathalie Dupont qui dit, je le consulte encore, reçu lors de mon mariage en 86. Vous avez été nombreux sur le groupe Facebook des bons vivants. Eh bien, figurez-vous que moi, que j'ai rencontré Françoise Bernard il y a 5 ans. Elle avait 95 ans, elle est encore en pleine forme.
Et elle vous a cuisiné quoi?
Eh ben non, c'est moi qui l'ai cuisiné. Je lui ai demandé de me raconter comment elle avait décomplexé la cuisine du quotidien.
C'est pas une grande cuisinière, c'était une jeune femme qui voulait apprendre à faire la cuisine en ne parlant pas le langage des livres de classe. La forme, c'est comme moi qui l'ai fait connaître, pas de jargon. Alors j'étais entre les mains de cuisiniers, je les ai vus travailler, j'ai acquis bien vite. Mais le savoir vient quand vous avez l'envie et que vous êtes obligé de le faire.
Ça, c'est bien dit. Le savoir vient quand vous avez l'envie et que vous êtes obligé de le faire. Ça, c'est assez vrai.
Elle a été pionnière aussi des indications précises sur la manière de réaliser les recettes, et notamment les températures et les temps. ce qui ne se faisait pas beaucoup à l'époque.
Exactement. Alors c'est vrai qu'elle était moderne à l'époque, oui. Françoise Bernard. Et c'est ce que retient notre camarade, justement, Jean-Luc Petit-Renaud. Bien le bonjour, l'ami.
On est à quelques semaines des prix littéraires. Eh bien, moi, mon meilleur roman de l'année, je vais vous dire, c'est Françoise Bernard, parce que j'ai envie de le garder sur ma table de nuit et puis le lire par petites lichées. Je vois rognon ou champignon. Alors, elle donne toujours son avis. Le rognon, s'il bout quelques secondes, attention, dans une sauce, il va devenir coriace. Donc, faut bien surveiller son feu. Et puis, il y a le petit clin d'œil sur la gougère. Tout le monde a servi des gougères. Elle dit, elle doit être servie tiède, la gougère, juste tiède, avec un bon coup de blanc. Et ben voilà, l'apéritif est trouvé, tout trouvé. Comment vous n'allez pas passer trop de temps aujourd'hui ? Elle raconte la cuisine de tous les jours. Et moi, je la revois dans son joli petit tailleur multicolore, avec sa jupe droite, quand elle racontait la belle table.
Absolument, on la voit, Françoise Bernard. Merci Jean-Luc Petit-Renaud, et je vous rappelle les recettes faciles de Françoise Bernard aux éditions Hachette. Allez, ne bougez pas les amis, on revient dans un instant. On se met à table avec une cuisine végétarienne, oui, mais gourmande et joyeuse.
11h30 sur Europe 1. Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Des riz sautés, de belles tartes aux légumes, des hachis végétaux, des galettes de pommes de terre, des currys de pois chiches. Eh bien oui, la cuisine végétarienne peut être joyeuse et gourmande. Et ce n'est pas notre invité qui dira le contraire. Vous la connaissez, hein, auteur de livres de cuisine à très gros succès depuis le début des années 2000. Quelques titres tiens, que vous avez peut-être chez vous. « Je veux du chocolat »,« Ma petite robe noire » et « Mourir de plaisir ». C'est de la triche. Eh bien, elle consacre son nouveau livre à la cuisine végétarienne. Elle vient nous en parler en exclusivité, tiens, pour Europe 1, parce que le livre vient tout juste de sortir. C'est Triche de Seine. Bonjour, Triche.
Bonjour, Laurent. Bonjour, tout le monde.
Bonjour.
Je ne vous présente pas Yves Candebord et Olivier Pouls. Hein, c'est pas la peine. Alors, le titre, alors déjà, il est amusant, parce que toujours avec vous, les titres sont amusants. Et ça, c'est vrai que vous êtes forte sur ça, parce qu'un bon titre, déjà, ça donne envie de passer à table et de déguster le livre. Alors, votre titre. La bonne, entre parenthèses, cuisine, veggie et vegan, d'une omnivore réticente, mais amoureuse. Voilà, ça c'est précis.
Alors pour savoir, en fait c'était pas le premier titre, il y avait un titre beaucoup plus court, mais on a trouvé que l'explication était bien plus drôle. Donc c'est vrai que c'est un peu long, mais ça dit ce que ça veut dire.
Chez Hachette Cuisine en librairie mercredi prochain, donc merci d'avoir choisi Europe 1 pour venir nous le présenter. C'est vrai qu'on vous a quitté omnivore et on vous retrouve presque végétarienne. C'est le pouvoir de l'amour, c'est ça ?
Bon, j'ai passé une année 2020 très intéressante à m'adapter, comme beaucoup, beaucoup de monde, je pense. Donc pour moi, c'est une espèce de découverte de ce genre de cuisine, mais je suis en fait ce que j'en sors, c'est que je reste absolument omnivore. C'est-à-dire, j'ai essayé ces cuisines, je les ai rentrées dans ma façon de cuisiner, mais j'aime encore la viande, j'aime encore les produits laitiers, je ne pourrais jamais m'en passer.
Parce que vous avez été confinée, on va le dire, hein, vous le racontez dans le livre, avec votre nouvelle amoureuse,
oui.
Vous veniez à peine de vous rencontrer, vous êtes retrouvée à la maison, et qu'est-ce que vous remarquez ? C'est que cet homme-là est vegan et végétarien.
Presque vegan. Presque vegan, ouais. C'est-à-dire, mange ni viande, ni des produits laitiers. Et en fait, c'est quelque chose dont il a le dégoût. Donc, pour moi, j'ai beaucoup de mal à forcer des gens à manger ce qu'il n'y a pas, donc c'était à moi de le rejoindre, pas dans l'autre sens.
Il y a plein de recettes évidemment dans ce livre, plus de 80, ultra gourmandes, on va en parler. Mais avant, je voudrais qu'Olivier, vous nous expliquiez les définitions. Tiens, vous qui êtes très très
spécialiste.
En pointe, spécialiste du végétalisme et du végétarisme, donc végétarien, vegan, végétalien, c'est quoi les différences?
Alors j'ai dû réviser un peu quand même, c'est pas venu tout de suite. Hein,
donc, c'est loin de la boucherie.
Loin de la boucherie. Alors végétarien, donc c'est pas de viande, pas de poisson, ni de coquillages et de crustacés. Pescétarien, pas de viande, mais du poisson et autres produits de la mer.
C'est
alors
ça.
Vegan, refuse l'exploitation animale. Alors là, c'est vraiment le plus dur du dur, puisqu'on ne porte pas de cuir, par exemple, ou pas de laine. Alors il y a végétalien aussi, donc pas de viande, de produits de la mer, pas de laitage et pas d'œufs. Et puis il y a mon préféré, c'est bon vivant, c'est nous, hein, Yves Candebord et moi.
Mais on peut être bon vivant et végétarien et presque vegan, Triche de Seine.
Absolument, mais on a au moins 80 façons de le faire dans mon livre, ça c'est sûr.
Alors le livre est organisé en chapitres qui correspondent à votre cheminement pour aller vers cette cuisine végétale. Et ça débute par justement « Je veux du poulet ».
Alors ça, c'était presque le titre du livre. Mais oui, c'était la chose qui m'a manqué le plus rapidement et le plus fondamentalement. C'est-à-dire la texture et le goût du mami de la viande. Donc le retrouver, il fallait quand même trouver de nouvelles pistes, de nouvelles choses à faire. Et donc je recherchais dans beaucoup de choses comme la sauce soja, comme la tomate, comme les champignons. Et finalement, quand on cuisine, en faisant attention à bien caraméliser les oignons, à bien utiliser les sucres, l'effet maillard pour les légumes, on arrive quand même à retrouver un petit peu ce goût
cette
du
saveur,
tomate.
Vous recherchez vraiment le goût, hein, le goût pour le goût. Et il y a une recette moi, qui me fait très envie, ce sont des pommes de terre que vous allez parfumer avec de l'huile d'olive, de l'ail, plein d'herbes et du citron
et du
aussi.
Citron.
Et vous mettez des quartiers de citron, il y a un côté caramélisé comme ça. Et c'est vrai que la pomme de terre et le citron, on n'y pense pas tant que ça en plus.
Tout à fait, en plus c'est un tout petit peu brûlé. Donc on a ce goût brûlé, un peu amer, et finalement c'est assez complexe.
Et alors vous êtes venu avec un plat, c'est votre plat. Et alors racontez-nous ce que vous avez apporté, parce que là justement, on s'amuse avec la viande, là c'est le cas de le dire.
Voilà, alors c'est un chili, chili vegan, beaucoup d'oignons, de l'ail, j'ai mis aussi de la gochujang, donc il y a du piment fermenté, il y a du miso pour booster aussi les saveurs.
Haricots rouges
comme un vrai chili. Et en fait, les lentilles vertes sont là pour essayer d'avoir la même mâche que quand on utilise de la viande hachée. Je vous ai mis un petit peu de crème crue par chez moi, de Brionne sur la Sarthe, parce que la bonne crème, quand elle est bien faite, il ne faut pas s'en priver.
Attends, regardez, parce qu'il y en a un que vous allez la voir, vous allez l'attraper, parce que le viandard...
Je suis honnête, c'est très bon. Hein? Non, mais je suis honnête, c'est très bon, ça fait le job.
Et on a la même texture.
Non, parce que vous compensez très habilement le manque de viande par le fait de rehausser le plat, d'utiliser beaucoup d'épices, de jouer sur les textures et d'avoir quelque chose qui est très intense en goût. Et ça, c'est évidemment très malin.
Et puis la vraie révolution qu'il y a par rapport aux légumes, c'est qu'on ne considère plus le légume comme un accompagnement. On le traite avec la même philosophie que si on traitait un morceau de viande ou de poisson. Et c'est pour ça que ça a du goût. On le fait de la même façon. Un morceau de viande ou de poisson, on l'assaisonne, tu l'as bien triche, on le caramélise, on va déglacer pour récupérer les sucres et on fait exactement la même chose avec le légume. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des plats de légumes qui ont la même profondeur et qui donnent la même émotion de goût qu'un plat de protéines.
Vous êtes obligé de faire la même chose dans vos restaurants parfois quand vous avez une clientèle qui ne veut pas manger de viande, ça arrive, Yves Candebordes.
Mais maintenant, depuis le début des années 2000, toutes les cartes de restaurants, on intègre systématiquement une entrée, voire deux entrées végétales et identique pour les plats.
Et c'est de la triche, mais c'est bon, on triche. Hein.
Merci.
ne bougez pas dans un instant, on découvre plein d'autres recettes végétariennes faciles et délicieuses que vous pourrez refaire dès ce week-end avec Triche de Seine, qui est notre invitée avec son nouveau livre « La bonne cuisine veggie et vegan » d'une omnivore réticente, mais amoureuse.
11h30 sur Europe 1. Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Toujours en compagnie de Triche de Seine, auteur de livres de cuisine irlandaise. Hein, vous vivez en France depuis 30 ans. Triche, vos livres sont toujours une ode à la gourmandise, même celui-ci qui est consacré à la cuisine végétarienne et végétalienne. La bonne cuisine végie et végane d'une omnivore réticente mais amoureuse qui paraît mercredi prochain chez HM. Vous l'entendez ?
C'est Yves.
Le bruit préféré d'une cuisinière.
Vous avez déjà terminé parce que si vous venez d'arriver, Triche de Seine nous a régalé avec un chili sin carne. À l'œil, c'est la même chose qu'un chili avec de la viande. Vous avez remplacé la viande, vous le disiez, par du miso, par des carottes. Hein.
Et des lentilles, surtout.
Et des lentilles, voilà.
Et Laurent, à la dégustation, on a de la consistance, il y a du croquant, de la profondeur, de la longueur de bouche. C'est relevé. Non, mais c'est relevé juste ce qu'il faut. C'est vraiment très plaisant.
C'est très bon.
On parle ici souvent de l'importance de manger moins de viande et de produits laitiers pour faire diminuer l'élevage intensif qui pollue beaucoup. C'est vrai, c'est devenu une nécessité, Olivier, il faut bien le dire.
Oui, vous avez raison, on a beau dire ce qu'on veut, mais défendre l'élevage intensif, c'est aujourd'hui très compliqué. On manque d'espace agricole sur la planète. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, l'élevage exploite quand même 70% des terres cultivées. Pour produire un kilo de bœuf, il faut 323 mètres carrés de terre agricole. Oui, c'est beaucoup.
Voilà, il faut équilibrer notre alimentation, la diversifier, se tourner vers le végétal et les légumineuses. Alors, triche de scène, tiens, pour mieux appréhender la cuisine végétale, voici un petit questionnaire pour nos auditeurs. Quel ingrédient, tiens, avez-vous découvert en cuisinant végétarien ?
J'ai découvert, on n'a pas le droit de les appeler yaourts, donc des préparations pseudo-lactées de soja et de noix de coco, avec lesquelles je fais du labné. Donc un fromage
qu'on égoutte, comme un fromage blanc frais,
avec du citron et de l'huile d'olive.
Quels sont ceux que vous vous refusez à manger ?
Je ne mange pas les fausses viandes.
Ah oui, les steaks de soja et de tofu.
Je ne peux pas, je préfère le.
Quel plat pour une grande tablée, tiens ?
Eh bien, ça, le chili, ça va très bien. Et on peut même proposer donc un chili végétarien, vegan, avec un chili à la viande à côté.
Quel est le plat végétarien le plus facile à faire ?
Je crois que c'est le curry. C'est vraiment là, encore une fois, on rajoute beaucoup, beaucoup de saveurs au début avec les épices que l'on fait tempérer. Et après, on a simplement à rajouter des légumes et un peu de tomates. Voilà, c'est vite fait.
Et enfin, quel plat pour convertir un omnivore, à part le chili ? Parce que ça marche. Hein.
Moi, le plat qui m'a le plus plu, c'est en fait un chou braisé au gochujang encore, donc avec ce piment coréen et du miso. Et finalement, quand on le découpe en tranches et on le fait braiser avec une sauce tomate longtemps, ça a presque une texture de viande aussi. C'est très satisfaisant et puis plein de saveurs.
Alors c'est vrai que dans votre livre, il y a beaucoup de saveurs, il y a beaucoup d'épices, il y a beaucoup de recettes inspirées de la cuisine du monde. C'est ça qui permet de faire ce pâté de côté, de remplacer la viande aussi, j'imagine, c'est d'avoir recours à toutes ces épices.
Mais complètement. Et puis finalement, la cuisine végane et végétarienne, c'est une façon de voyager, une façon de découvrir d'autres cultures. Parce qu'il y en a tellement qui ont beaucoup, beaucoup de plats qui sont à base de plantes, que ce soit israélien, libanais, le japonais. En Inde, il y a 400 millions de végétariens.
Et quand même.
Et africains, jamaïcains. Donc on peut vraiment faire cette découverte.
Et alors, vous faites des desserts aussi végétaux, donc ça veut dire sans crème, ni beurre. C'est des desserts quoi, plus fruités, on va dire ?
Oui, on va dire. Ça, c'était vraiment très difficile d'être sans beurre ni crème.
Ah oui, hein.
Donc, il y a des brownies dans le livre, il y a des gâteaux qui sont faits sans beurre et sans crème. Mais c'est là vraiment où j'ai eu du mal. Je n'ai pas pu me passer des œufs. Donc en fait, ce sont des recettes, ce qu'on appelle, ça c'est une catégorie, je ne sais pas si Olivier l'a rajouté, mais c'est la catégorie vegan, avec un G en plus, donc egg pour vegan.
Oui.
Et on peut, il y a des vegans qui mangent des œufs sans problème.
Bah ouais, donc, c'est compliqué de se passer des œufs quand même,
mais
hein,
très
franchement.
Très compliqué.
Alors
donc,
qu'est-ce que vous nous avez apporté ?
Il y a des œufs qui sont quand même aujourd'hui très éthiques. Hein,
complètement.
On ne tue plus les poules.
Tout à fait.
Oui, il y a une marque qui
donc
s'appelle Poulaouse, justement,
bien sûr,
laisse aller les poules jusqu'à leur fin de vie.
Alors, je vous ai apporté une espèce de monstre de Frankenstein de tous les ingrédients qu'on trouve le plus dans les recettes véganes. Parce que si on a un végan à notre table, on veut quand même leur faire plaisir aussi. Donc, c'est du fudge qui est fait avec du sirop d'érable, du beurre de cacahuète. Il y a un demi-avocat dedans, c'est peut-être l'arrière-goût que vous êtes en train...
Oui.
Il y a Yves qui fronce ses sourcils.
Un côté végétal, effectivement.
Un petit côté végétal.
Même aussi chercher.
Et il y a du chocolat, du bon chocolat. Et puis dessus, alors ça, ils ont eu la très bonne idée d'être vegan, les cookies Oreo. Et là, pour le coup, j'ai mis des double cream Oreo pour le croquant. Donc c'est intéressant, c'est une découverte. Bon, il n'y a pas de beurre.
C'est vachement
parfois,
bon, c'est dense, c'est très nourrissant.
Et,
ça,
oui,
hein.
Et puis le côté pertinent, parce que justement, il n'y a pas de beurre. Et Dieu sait que le beurre en pâtisserie, quand même, c'est génial, parce que ça amène ce gras, cette onctuosité. Et là, c'est l'avocat qui l'amène.
Oui.
C'est le gras de l'avocat qui arrive à faire cette liaison et qui amène la gourmandise, en fin de compte.
Oui, mais l'avocat pose d'autres problèmes éthiques.
N'est-ce pas ?
Ah. On ne peut pas aujourd'hui celui considérer du Mexique, que surtout. L'avocat, notamment mexicain, est neutre en termes d'éthique et de bilan climatique.
En Espagne, c'est mieux. Et on en fait même en Corse des avocats. Alors, ils coûtent un peu plus cher. Mais ceux d'Espagne, franchement, moi, je pense que c'est vers cela qu'on peut se tourner. Il faut être malin hein, pour cuisiner végétarien et végétalien triche, en fait.
Je pense. En ce qui concerne les desserts, surtout, pour moi, on a vraiment une approche qui est presque dans la chimie. C'est un peu comme quand on commençait la cuisine moléculaire.
C'est réussi, là, avec vos 80 recettes. Effectivement, moi, ce que j'aime, c'est que ça permet de jouer avec la nourriture, comme on dit, de découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles associations de saveurs, des accords, et puis d'avoir ce gras qui est apporté par une autre matière que le beurre, par exemple. Non, c'est
d'anoblir le légume.
C'est
vrai que ça,
c'est vrai.
Il faut le rappeler. Il faut anoblir le légume.
La bonne cuisine veggie et vegan d'une omnivore réticente mais amoureuse. 80 recettes ultra gourmandes. Si, si, promis, vous le dites. Ben on a confirmé avec vous ce matin. C'est chez Hachette Cuisine. Merci, Trish.
Merci à vous.
Et bonne
Merci
vie avec beaucoup. Ce beau livre. Et bon retour dans votre jolie perche.
Merci beaucoup.
On vous imagine dans votre maison, tester ces belles recettes. Eh bien, merci de nous régaler. Allez, on se retrouve dans un instant avec la comédienne et réalisatrice Zabou Bretman, qui est en ce moment au théâtre et dans un instant à la table des bons vivants.
Europe 1. La table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Zabou Bretman est en train d'arriver. En attendant, on écoute Gaëtan Roussel avec Une seconde ou La vie entière sur Europe 1.
Rien ne s'efface, tout reprend sa place. Les silences, les boumangs ou la mer prennent tout le temps nécessaire. Tout se rejoint, tout n'est que va et vient, tout s'envole au lointain, regard les conifères prennent tout le temps nécessaire. S'il faut, regarde en arrière ou loin devant le mystère. Une seconde ou la vie entière. C'est si beau quand les choses prennent tout le temps. Hier, yeah. Tu disais on se ressemble. On est fait pour vivre ensemble. Aujourd'hui, mystère. Hier, yeah. Tu disais on se rassemble. On est fait pour fuir ensemble. Aujourd'hui, n'est que tourbillon, une étincelle, un éclair ou un papillon à l'éphémère. Tu sais ce qui lui manque, c'est de prendre tout le temps nécessaire. S'il faut, regarde en arrière ou loin devant le mystère. Une seconde ou la vie entière, c'est si beau quand les choses prennent tout le temps. Hier, tu disais on se ressemble. On est fait pour vivre ensemble. Aujourd'hui, mystère. Hier, tu disais on se rassemble. On est fait pour fuir ensemble. Aujourd'hui, aujourd'hui, mystère. Hier, yeah. Tu disais on se rassemble. On est fait pour fuir ensemble. Aujourd'hui, mystère. Hier, yeah. Tu disais on se rassemble. On est fait pour vivre ensemble. Aujourd'hui, mystère. Hier, yeah. Tu disais on se rassemble. On est fait pour fuir ensemble. Aujourd'hui, mystère.
C'était Gaëtan Roussel avec son tout nouveau single « Une seconde » ou « La vie entière » sur Europe 1. Bientôt midi, les amis, ça y est, c'est l'heure d'accueillir notre invité. Comédienne, réalisatrice, scénariste, metteuse en scène, elle collectionne les succès et les récompenses. Elle nous fait rire, elle nous émeut au cinéma, se souvenir des belles choses ou le premier jour du reste de ta vie pour ne citer que quelques films marquants. Elle joue depuis quelques jours sur la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin dans Dorothy. Elle incarne le personnage fantasque et savoureux de Dorothy Parker. C'est Zabou Bretman, notre invité. Bonjour Zabou.
Bonjour.
Bonjour. On est
Merci
bien
de
content
m'accueillir.
De vous recevoir.
Ouais, et je trouve que les bons vivants, c'est mieux que les mauvais morts. Donc voilà.
C'est vrai, on l'a dit quand certaines personnalités nous quittent effectivement et qu'on les connaissait bon vivant,
oui.
Voilà, on les préférait bon vivant que mauvais mort. Comment ça va alors au Théâtre de la Porte Saint-Martin depuis quelques jours ?
Alors ça va et je commence à me caler parce que c'est un spectacle très particulier qui commence presque comme un stand-up. Ça commence d'ailleurs comme un stand-up.
Vous êtes seule en scène, hein ?
Ouais, je suis seule en scène et en plus je fais tout, c'est-à-dire la lumière, le son, d'accord ? En même temps, parce que j'aime bien l'artisanat. J'aime bien qu'on voit comment c'est fabriqué et ça n'enlève rien. Il y a des restaurants comme ça où on voit, évidemment, où on voit maintenant les cuisines. Ça n'enlève rien à la saveur et à la magie. Rien du tout de savoir comment c'est fait. C'est pas grave. Et j'ai commencé à trouver là une espèce d'aisance avec, contrairement à ce qu'on imagine, je suis très traqueuse. Et pour arriver à faire passer ça, il faut travailler plus pour qu'on ne voit pas le travail.
Oui, surtout que vous êtes seule. Et alors, c'était qui cette Dorothy Parker ? Parce que tout le monde ne la connaît pas. Comment on pourrait la définir ? Parce qu'il y a tellement à dire sur elle.
Oui, alors on connaît beaucoup la Dorothy Parker, la plus méchante et la plus noire, bon, extrêmement drôle, un esprit très rapide, on l'appelait la futée, hein, The Wit. Mais on connaît celle vraiment des derniers moments où qui était super méchante, et critique de théâtre aussi, elle est dans dur. Hein.
Chroniqueuse, auteur, romancière, voilà. Elle écrit dans le New Yorker, Vanity Fair, Vogue. Hein.
En fait, voilà, je voyage dans le New Yorker. Mais surtout, j'ai pris l'époque en fait, de la Prohibition, qui, curieusement, est aussi l'époque de la libération des femmes aux États-Unis. Parce que en fait, ça, le 18e amendement de la Prohibition et le 19e, les votes des femmes, sont liés. C'est pour la même raison. C'est-à-dire que les femmes se sont dit, tiens, on a voix au chapitre, et elles ont demandé une voix légale, une voix citoyenne. En même temps. Donc ça, c'est assez rigolo. Et donc, je traverse les années 20-30, avec Dorothy Parker. Et Dorothy Parker, ce qu'elle a de merveilleux, c'est que ce n'est pas une femme de posture. C'est-à-dire qu'elle n'est pas libre parce que c'est bien d'être féministe. Elle ne l'est pas. Oui. En revanche, elle lutte contre la misogynie.
C'est ça.
Elle lutte contre la xénophobie, mais elle s'autorise à toutes les déconnes possibles et imaginables. Mais elle va tout léguer à Martin Luther King. Son héritage, en 67, ça a fait un tollé aux États-Unis. Les gens étaient fous qu'une blanche comme ça lègue tout à lui, mais elle est merveilleuse. Et en même temps, elle est juste très cinglante, très noire, très très drôle. Et donc je traverse ça en racontant à ma manière, avec presque un dialogue avec le public, cette époque-là.
Est-ce qu'elle aimait cuisiner, Dorothy Parker ?
Oh, je crois pas, à mon avis, pas du tout. Alors là, c'est
alors,
pas le genre.
Vous aimez cuisiner.
Elle aimait boire,
pardon. Oui, absolument, jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Quel est votre goût de la semaine, tiens, Zabou Breitman ?
J'ai fait plein d'essais, parce que j'ai eu la chance d'avoir Anne-Sophie Pi qui m'a demandé de faire un burger pour son pick truck.
Et oui, son food truck, effectivement. Oui,
le food truck.
Quelle balade.
Et alors, donc, j'ai adapté une recette. Et donc, j'en ai mangé énormément parce qu'il faut goûter, évidemment. Hein. C'est là quand même, on ne peut pas
c'est
faire...
C'est vous qui faites la recette.
Oui, c'est moi qui fais la recette. Oui, parce qu'elle m'a dit, on peut l'adapter. Puis quand ils ont vu que, je cuisinais et que j'avais envie de la faire, cette recette. Donc, j'ai adapté des boulettes que je fais régulièrement. Évidemment, je peaufine, j'améliore, je demande à votre avis. Le hamburger, faut pas que ça soit sec. C'est ça le risque.
Du moelleux.
Ouais.
Du juteux.
Ouais. Bah oui, parce qu'il y a du pain avec. Donc quand même, faut que ce soit quand même assez tendre, faut qu'il y ait un liant. Alors moi, je mélange du veau et du bœuf tout le temps. J'ai rajouté un peu de ricotta pour le liant, du parmesan. C'est comme si c'était, on va dire, une sorte de tartare italien.
Ah ouais.
Coriandre ciselée, un petit peu de ciboulette, je mets un tout petit peu de piment d'Espelette
pour
et puis je fais revenir en général un peu les échalotes dans du vinaigre pour ajouter un tout petit peu de
du peps,
d'acidité.
Ouais, et je trouve qu'il en manque encore un tout petit peu, mais ils vont m'aider.
Ah bah dis donc, elle est précise, elle est pointue. Hein.
Ah ouais, je savais pas qu'on recevait un grand chef.
Non, je suis pas. Non,
c'est la chef Zabou Breitman. Vous cuisinez avec les saisons, j'imagine, Zabou.
Hein? Quand même.
Alors justement, notre chef Yves Candebord à côté de vous aime les saisons aussi, et c'est la saison de la poire. Et vous allez nous aider à l'appréhender différemment. En dessert, tiens, la poire. C'est un fruit, mais on peut l'utiliser en garniture. Ça a l'air de plaire à Zabou.
Oui, énormément. Super.
La poire, déjà, c'est un fruit qui a très peu de calories, qui est bon pour la santé et surtout pour la digestion.
C'est vrai.
Et c'est vrai qu'on connaît, tout le monde connaît la poire bordale, la tarte bordaleau, tout le monde connaît la poire condée, bien sûr, l'historique poire Belle-Hélène, mais peu de gens.
La poire William.
La poire William, ça c'est encore autre chose lié. Mais peu de gens l'utilisent en salé. Et c'est un fruit qui est super intéressant en salé.
Alors, qu'est-ce que vous en avez fait ? Parce que là, vient de nous apporter une de vos créations, Yves Candebord, et c'est très très beau, ça.
Ouais.
Je vais vous donner deux recettes très très simples. Il y en a une que j'adore, c'est la cuire dans du vin rouge. Alors, on prend un vin rouge qu'on sucre très peu, 50 grammes pour un litre.
Ça marche en dessert, ça.
Ça marche aussi en dessert, mais ça marche aussi, surtout en ce moment, ça marche en garniture. Vous allez la pocher dans le vin rouge, ça va lui amener un peu d'âpreté et un côté très jolie, très bordeaux, elle va se marbrer.
Belle robe, oui.
Et un accompagnement en ce moment, des canards. On a commencé la saison du col vert.
Ouais.
Poire, canard colvert rôti.
Ah ouais.
C'est beau et surtout c'est bon.
Et qu'est-ce que vous avez mis par-dessus? Alors, là, c'est une charcuterie, on dirait. Hein.
Je vais pas vous cacher que j'ai déménagé il y a pas longtemps.
C'est bon, ça.
Et ça va vous intéresser parce que dans les cartons, j'ai retrouvé Figaro Magazine de 2010.
Dans lequel Zabou Breitman disait des choses.
Sur la poire?
Vous parlez d'un mec qui vous plaît, c'est poire gorgonzola.
Exactement, vous l'avez fait là.
C'est... Je l'ai adapté au restaurant. Moi, je me suis amusé à rajouter voilà, de la viande de grison avec.
Ah, génial. Voilà. Génial, c'est super bon.
J'ai pouché.
Poire, gorgonzola, elle est farcie cette poire au gorgonzola.
Très simplement, la poire épluchée, légèrement citronnée, cuite à la vapeur.
Comme ça,
je garde l'authenticité du goût. Je ne la dénature pas. Elle est tiède. Je pose dessus des morceaux de gorgonzola qui vont fondre légèrement, qui vont amener le crémeux. Et je me suis amusé de rajouter cette protéine que j'aime bien, qu'on utilise aussi peu souvent à la maison, la viande de grison qui nous vient de la région des grisons en Suisse et qui amène ce côté un peu fumé.
La viande de bœuf.
La viande de grison, moi je suis fan, totalement fan. C'est très léger également.
C'est marrant, c'est la cuisine c'est comme la mode, hein, c'est des cycles. Vous aviez parlé de cette recette il y a 10 ans sans la viande de grison, Zabou Breitman, mais elle revient complètement tendance quand on la déguste comme ça.
C'est super bon.
Et après par rapport à ce que vous avez dit aussi, par rapport à l'hamburger, quand vous avez parlé du rajout de vinaigre, de l'acidité. Je n'ai pas rajouté de vinaigre, mais j'ai rajouté un poivre qui a un côté très fruité. C'est le poivre de Sichuan. Qui a ce côté un peu piquant et surtout qui tire un peu sur les agrumes. Et c'est important.
Gorgonzola, viande des grisons.
C'est super.
C'est magnifique. Bravo.
C'est joli. Elle est bien cuite, la poire. Je l'aime bien parce qu'il faut faire un peu gaffe de ne pas passer de l'autre côté. C'est-à-dire quand elle a plus de fermeté, c'est fini.
Je retiens l'idée de la cuire à la vapeur. Hein. C'est très intéressant.
C'était l'entrée.
La texture.
Eh ben, c'est pas fini. Ne bougez pas. On revient avec le plat du jour dans un instant. Continuez à vous filer vos recettes. Il n'y a pas de problème.
Croquant.
On est là jusqu'à midi et demi. On bouge pas, nous.
C'est important.
Et le croquant, il y en a à table. Hein, et le fondant.
Ah oui.
Vous mettez 10 grammes de sel par litre d'eau.
Je fais cuire des petites pommes de terre nouvelles.
Et des fraises, bien sûr.
Europe 1, hyper simple. 11h, 12h30, la table des bons vivants.
On envoie les tomates farcies. Allez.
Laurent Mariotte.
Ah, on se régale. Hein. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. On est allé en Alsace récolter des couettes. On a rendu hommage à Françoise Bernard, la reine de la cuisine ménagère. Et on s'est mis à la cuisine végétarienne, gourmande et rassembleuse avec Triche de Seine. Vous retrouverez toutes ces belles séquences gourmandes sur Europe1.fr avec le podcast. Et on se réjouit parce que Zabou Breitman est des nôtres. Et ça fait plaisir de vous avoir à table, Zabou Breitman.
Et moi donc, parce que j'ai le droit de manger des petites choses qui sont quand même pas mal. Hein.
Ben oui, et puis il faut prendre des forces pour monter sur scène dans Dorothy tous les soirs au théâtre de la Porte Saint-Martin.
C'est compliqué. C'est compliqué de monter, de manger avant. C'est impossible.
Tous les artistes le disent, pratiquement.
Et alors, il y a un truc incroyable. Quand vous mangez, ça vous modifie. Quand on mange quelque chose, vous êtes modifié.
Expliquez.
Eh bien,
génétiquement.
Vous êtes modifié chimiquement. Déjà. Le fait d'ingurgiter quelque chose, ça vous modifie. De digérer, ça vous modifie.
Ah ben la digestion, oui.
Donc, ça n'est pas possible. Pour moi, ça n'est pas possible de manger quoi que ce soit avant, mais rien. Rien, c'est même... Et autre chose, c'est pour ça que là, je vois qu'il y a un petit vin qui a l'air très bon. Mais je ne peux pas boire dans la journée avant. C'est psychologique, ça m'angoisse complètement. Il y a des gens qui ont besoin de boire, par contre, un tout petit verre de vin rouge ou... Et des chanteurs parfois pour la voix, pour tout ça.
Aznavour faisait ça avant de monter sur scène à chaque fois.
Il y a pas mal de chanteurs, Bordeaux. Hein. Oui. C'est Maxime Le Forestier qui fait ça. Juste un super verre de vin rouge.
Surtout pas de bulle. Il dit la bulle est l'ennemi du chanteur, Maxime Le Forestier.
Oui, tout à fait.
Ah bah oui.
Mais l'ami du chanteur, c'est comme fruit, la banane. Parce qu'il y a une petite substance qui est très bonne pour les cordes vocales.
Ah oui, puis il y a de l'amidon, donc c'est un sucre lent, donc ça donne de l'énergie et ça permet de tenir aussi. Ouais. Donc, banane avant d'entrer en scène dans Dorothy.
Donc vous soupez après.
Je soupe après et je m'autorise un petit verre quand même.
Souper après théâtre, c'est quand même vraiment
un joli mot, le souper. Qui a disparu. C'est vrai que ça a presque disparu. Vous jouez donc Dorothy Parker jusqu'au 23 octobre au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Ensuite, vous serez aussi le 8 octobre en province, il me semble.
Oui, à Antibes. Là, je fais une petite escale à Antibes et je reviens à la Porte Saint-Martin.
C'est bien, vous avez bien raison.
Ah, ouais.
Et Dorothy Parker, elle écrivait des nouvelles et des poèmes aussi, il me semble.
Beaucoup de poèmes, beaucoup de poésie. des poésies parfois assez noires, parfois assez drôles, avec souvent des chutes improbables. Et c'est, j'aime beaucoup ça, parce qu'elles sont souvent inattendues. C'est-à-dire que ça part dans un endroit et il y a ce qu'on appelle la disjonction, et tout à coup, clac ! Ce qui existe en cuisine, hein, d'ailleurs, ou dans les histoires drôles, ou dans les polars. C'est-à-dire que c'est l'endroit où la tête hop, comment, tourne un tout petit peu, switch.
Ça vrille.
Ouais, ça vrille un petit peu, et hop, c'est y a un humour assez dévastateur hein, dans ce qu'elle fait. C'est très très drôle.
Mais
hein.
Jusqu'à la fin de ses jours, vous le racontez sur scène, mais jusqu'à la fin, même elle pensait aux épitaphes qu'on allait mettre sur sa tombe.
Ah bah tout le temps. De toute façon, elle pensait tout le temps à mourir, hein, mais elle pensait aux épitaphes où elle avait dit "Excuse my dust", parce qu'elle avait dit en cas de crémation, je trouve que excusez-moi pour la poussière, c'est bien comme truc. Et il a écrit ça sur sa tombe. Parce "Excuse my dust".
C'est ça. Elle en avait prévu une autre qui était "Si vous arrivez à lire ceci, c'est que vous êtes trop près".
De toute façon, elle voulait. Voilà. Elle est tellement, tellement, tellement une conscience, une surconscience du monde qui, je pense, la rendait aussi complètement noire et malheureuse.
On l'entend, hein, Zabou Breitman, vous aimez manger, vous aimez cuisiner. Vous cuisinez presque tous les jours, peut-être pas quand vous êtes sur scène, mais sinon, c'est une activité quotidienne.
Ah oui, non. Ouais. Ah oui. Bah, pour moi, c'est impossible de faire un truc pas bon. C'est pas possible. C'est comme si on. Je sais pas, c'est quelque chose qui a à voir avec une inélégance par rapport à la vie. Je peux pas manger un truc pas bon ou moche.
Respect par rapport à soi aussi, de ne pas manger
moche,
des bonnes choses.
Ou pas beau, mais je mange toute seule. Si je me fais un truc à manger, ça va. Il y aura forcément un truc un peu sympathique. Il y aura quelque chose de joli ou d'élégant. Je peux pas manger n'importe comment. Non, c'est pas possible.
Alors là, on vient de se régaler avec la poire farcie au gorgonzola d'Yves Candebord, avec cette viande des grisons taillée très finement, un beau poivre par-dessus.
Ah ouais. Alors, ça m'a mis en appétit.
Hein, ça, oui, c'est que le début. On s'est renseigné sur vos goûts, Zabou Breitman. Alors, je crois que vous aimez les patates douces.
J'adore, oui.
Les avocats aussi.
Oui, j'aime tout.
Enfin,
oui.
Le hachis parmentier au confit de canard, on m'a
j'adore,
dit.
J'adore.
Et les tomates.
J'aime tout.
Alors, on va pas tout mettre ensemble, non, parce que je suis pas sûr que ça marche au niveau des goûts. Mais regardez, on a prévu un plat du jour spécialement pour vous. C'est le chef Émile Cotte qui régale ce midi. C'est le chef du restaurant Bacave dans le 5e arrondissement de Paris. Okay. C'est une des nouvelles adresses de la capitale.
Ah, c'est super. Il a fait un... Ah, d'accord.
Dites, qu'est-ce qu'il a fait?
Bah, là, ça a l'air d'être un hachis à la patate douce.
Ouais. Parmentier de canard.
Parmentier de canard, la patate douce qui doit être très sympathique, évidemment.
Ça, c'est pour vous et je trouve que c'est très bien pour rentrer dans l'automne, hein, avec ces belles couleurs orangées.
C'est magnifique. Mais c'est super d'avoir fait ça. Alors, attendez, j'ai encore un petit peu avec la poire.
Finissez la poire, vous avez tout votre temps, on est ensemble jusqu'à midi et demi. Alors,
c'est super beau.
On va
vous
présenter Émile Cotte. Tiens, c'est un ancien de Guy Savoie, de Frédéric Anton. Il est passé par des grandes maisons, il a monté cette auberge avec des prix abordables. Et puis, il est très attaché aux bons produits.
Ouais, Émile est très attaché aux bons produits. Et surtout, j'ai envie de dire, Laurent, c'est un grand gaillard. C'est ces personnages un peu presque de BD. Il est immense. Il est large.
Armoire à glace.
Il a une tête de chiribibi avec un sourire extraordinaire.
Et c'est marrant parce que ça a l'air très délicat ce qu'il fait.
Et c'est très délicat. C'est un très très joli cuisinier. Et il est du Limousin et il essaie de mettre en valeur systématiquement tous les produits de sa région. Et là, ce qu'on mange, c'est du canard qui a été élevé par son cousin, Didier Cotte.
Dans le Limousin.
Dans la Haute-Vienne, à Blon. Il met en valeur. Et quand vous voyez le plat, c'est vrai que le plat, quand on le voit arriver, on pourrait penser que c'est un peu roboratif. Moelleux.
Ah non.
La patate douce, elle est onctueuse.
Elle croustillante à la surface.
Elle est légère.
Oui, la patate douce, elle est très, très, très fine, très tendre. Il y a quoi? Il y a un liant là-dedans?
Un peu de beurre peut-être, peu de beurre ou de crème.
Je pense qu'il a dû cuire la patate douce, récupérer l'eau de cuisson et la détendre avec l'eau de cuisson.
Ah ouais, parce que normalement,
plus serré et plus épais.
Et surtout, ça peut être plus gras. Tandis que là, on est sur de la légèreté.
Et pareil, le taillage du confit de canard.
C'est très important.
Voilà, très, très
il y a de la mâche.
Effiloché et de la mâche. Ouais. On parlait du chili con carne tout à l'heure. On retrouve presque cette texture du chili avec le canard. Là.
Et ça, Laurent, c'est taillé au couteau.
C'est pas haché.
C'est taillé au couteau. Mais c'est ça qui est beau aussi. Et des jeunes comme Émile sont en train de s'accaparer un peu. Les traditions, le fameux hachis parmentier.
Alors, Zabou,
c'est fabuleux.
De la noblesse, de la légèreté, de l'onctuosité.
C'est monstrueusement bon, vous êtes d'accord?
Ah, bah oui, on est d'accord,
on n'est pas bien à table.
Oh là là.
On voulait votre avis parce qu'on sait que ça fait partie de vos plaisirs, justement.
Ah ouais, il a marié les deux, là, c'est génial.
Le hachis parmentier tout court.
Je vais vous dire un truc, j'aime pas trop normalement la patate douce, je suis pas un fan. Mais là, Ah, je trouve qu'elle trouve complètement sa place et l'équilibre du plat est fantastique. Parce que la pâte à doux, c'est ce côté sucré, justement, oui, parfois est un petit peu écœurant.
C'est vrai.
Et là, on ne l'a pas du tout.
Non, non. Ah non, non, mais c'est extraordinaire.
Oh, qu'est-ce que vous aimez cuisiner le week-end à la maison, Zabou Bretman?
Oh, bah, pas que le week-end, n'importe quand.
Oui, c'est vrai, on a bien compris. Ouais, bah, tous les jours, c'est bien.
Un peu de tout. C'est difficile parce que c'est tellement... J'essaie de varier. J'aime toujours avoir de la verdure. J'aime toujours un peu de salade parce que j'aime le vinaigre.
Ah,
et je mélange les vinaigres en fait. Je vais jamais. J'adore les sauces de salade. Donc, je mélange toujours un petit peu de soja, un petit peu de balsamique, un petit peu de vinaigre de cidre, et avec une bonne huile d'olive. Mais c'est toujours mélangé. J'aime bien quand ça. Alors parfois, ça peut piquer un peu.
C'est
je peux râper un peu de parmesan dedans. Je peux mettre du gomasio. J'aime bien le gomasio. Et c'est voilà. Et après, alors ça, les salades, j'adore. Je peux m'amuser à me faire un petit brunch que j'invente, que je sais pas, je me trouve des petits... Je regarde aussi parfois ce qu'il y a dans le frigo, ce qui reste, et je me dis, oh, qu'est-ce que je peux faire avec ce truc-là?
Mais oui, des quiches fousitou, où on met tous les restes du frigo aussi, ça marche.
Voilà, ça la fousitou, et l'autre fois, il y avait des œufs, je me suis dit, oh là là, faudrait quand même que je fasse un truc ou un gâteau, et... Alors il y avait c'était l'époque des Mirabelles, alors j'avais fait un clafoutis parce que clafoutis Mirabelles c'est bien aussi.
Ça fait plaisir de vous avoir à table, mais ça on était sûr. Eh bien restez avec nous jusqu'à midi et demi. Elle joue Dorothy Parker actuellement au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, une très belle pièce sur cette femme fantasque et savoureuse. Et Zabou Bretman est avec nous jusqu'à midi et demi. On revient avec les 2 minutes du vin d'Olivier Pouls dans un instant. Il y aura à boire.
30 sur Europe 1. Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Bon samedi midi à table avec nous, avec Zabou Bretman qui se régale. Et vous retrouverez évidemment toutes les recettes sur europe1.fr et en écoutant le podcast, bien entendu. Zabou Bretman, vous brûlez les planches depuis cette semaine du Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris avec votre pièce, que vous mettez en scène d'ailleurs. C'est un seul en scène où vous jouez la vie de Dorothy Parker sur plusieurs années, échelonnées, on va dire. Vous êtes inspiré de 5 de ses nouvelles, je crois.
C'est ça, j'ai pris 5 nouvelles. Donc, ils font partie des New Yorkers des années 20, 25, 30, donc pendant la Prohibition.
Le magazine américain.
Le magazine américain. C'est intéressant de parler au public parce que je raconte l'époque, et pas forcément que elle. Donc, je raconte l'époque. Ce qui fait que quand ils entendent les nouvelles... Ils ont un rapport à l'époque. Quand elle raconte qu'elle boit, à un moment donné, elle boit un Chablis. Elle dit « Ah, du Chablis, ça l'amuse beaucoup. » Donc elle boit. Et on est en pleine prohibition, donc il n'y a pas tout. D'accord ? Et elle dit « Ah, il n'y avait plus de raisins, ils ont dû le faire avec des courgettes. » Et parce que ça me fait beaucoup rire. Parce que
c'est pas sympa pour Chablis quand même.
Elle avait un sens de la punchline, comme on dit
c'est
aujourd'hui.
Ça.
De
la
formule, quoi.
Rapide.
Et avec Dorothy Parker, vous mêlez la petite histoire avec la grande aussi, Zabou, parce que vous nous rappelez que l'histoire se répète. En 1918, épidémie de grippe espagnole qui fait des ravages avec des millions de morts et les gens sont masqués dans la rue déjà.
Oui, il y a les photos des gens avec des cônes sur le visage. Il y a des photos incroyables de ces gens qui se promènent. On se dit, mais il y a 103 ans et finalement... Il y a eu beaucoup plus de millions de morts qu'on n'en aura jamais, évidemment, heureusement. Sauf que, en fait, on oublie que c'est une péripétie et que ça reste une péripétie dans l'histoire de l'homme et dans l'histoire de la planète, on n'en parle même pas, c'est rien du tout. Mais dans l'histoire de l'être humain, ça reste une péripétie. Alors, il faut faire douce, bien attention, faire tout ce qu'il faut. Mais je veux dire, par là, on va oublier, évidemment, et on va s'en remettre.
On n'est pas grand-chose.
Mais on n'est rien. Oui, voilà, il faut rapporter cette histoire à la grande et ne pas oublier qu'il faut beaucoup d'humilité pour chaque être humain, quand même. Faut pas oublier ça.
Alors, il y a une scène hilarante et savoureuse dans votre pièce, là, au Théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est celle d'un dîner où Dorothy Parker est invitée. Elle est placée à côté d'un monsieur qui semble particulièrement ennuyeux, le gaillard. Et elle a des phrases formidables, là, Dorothy Parker.
Mais en fait, il n'a pas d'autre sujet de conversation que ce qu'il mange. Bon, c'est vrai que si on va dans un grand restaurant,
moi,
ce qui m'intéresse... Oui. En revanche, si j'entends des gens parler d'autre chose, quand on va dans un restaurant gastronomique... Des gens qui parlent de tout à fait autre chose, c'est pas possible, parce que c'est très à part, un restaurant gastronomique, c'est très à part. Donc, évidemment, vous parlez du voyage que vous êtes en train de faire. En revanche, là, ils sont dans un dîner, bon, elle s'ennuie, et il ne lui parle que de ce qu'il mange.
Elle, elle se dit, si j'avais su, j'aurais apporté le tiroir du haut de ma commode et j'aurais fait du rangement. Il faut y aller pour penser
mais
à un truc pareil.
On les connaît, ces dîners. On a été dans des dîners mal placés où on est placé à côté d'un...
Ça compte.
Elle l'appelle le vieux toucan. Enfin bon, elle l'appelle de tous les noms. Elle s'ennuie à mourir.
Rassurez-nous, vous n'avez pas envie de ranger vos commodes, là?
Ah non, pas du tout.
On va pas tout raconter. Hein, c'est
sinon, Yves, qui est assis à côté de vous, va commencer.
Ah non, je suis ravie d'avoir Yves à côté de moi.
Dorothy Parker au Théâtre de la Porte Saint-Martin. On est ravis de vous avoir à notre table, Zabou Breitman. Vous aimez le vin? Ça fait partie des plaisirs de la vie pour vous?
Oui, oui. Oui, alors curieusement, moi, j'étais beaucoup plus amatrice de vin rouge. Plutôt un peu plus Bourgogne, mais paraît-il que c'est féminin. Je n'en sais rien, bref. Bordeaux, évidemment, oui, j'adore, mais j'ai eu du mal à supporter au bout d'un moment. Et je me suis tournée vers des blancs, mais des blancs assez ronds, en fait.
Vous aimez le Meursault, ouais. Hein, paraît-il.
Ouais, et Condrieux, des vins un peu... Pas contre du corps, quand même.
C'est un beau vin, le Meursault. Alors, c'est un vin aussi de fête, hein, parce que c'est vrai que ça démarre à 30 euros la bouteille. Alors,
c'est cher.
J'ai lancé un défi, justement, Olivier Pouls, celui de trouver des vins qui ressemblent beaucoup au Meursault, mais à moindre prix. Donc,
ça, c'est bien.
On vous écoute, Olivier.
C'est vrai que la Bourgogne, aujourd'hui, et notamment ces grandes appellations que sont Meursault, Puligny-Montrachet ou Chassagne-Montrachet, sont devenues... On peut le regretter, mais un petit peu inabordable. Hein. Il y a une demande mondiale qui est très forte et une production qui n'est pas très grande. Et donc, oui, les prix se sont envolés. Mais enfin, vous croyez que vous êtes une femme de goût en aimant le Meursault. Moi, je me suis dit que finalement, il y avait encore en Bourgogne, et heureusement, toute une série d'appellations et de régions qui sont moins connues, qui sont moins sous les feux du projecteur, et donc à des prix beaucoup plus abordables. Et donc, finalement, vous allez le voir, la qualité n'est pas si éloignée. Parce que lorsque vous avez des grands vignerons qui travaillent ces terroirs, aidés par une climatologie, alors je fais un petit peu mettre à part les vendanges qui sont en train de se passer, qui sont un petit peu compliquées, mais on n'a pas dit notre dernier mot.
Oui, il
n'est pas dit que ce ne soit pas bon. En tout cas, il n'y aura pas beaucoup de volume. Mais moi, il y a une région que j'aime beaucoup, qui est un tout petit peu au sud de Meursault, ce qu'on appelle la Côte Chalonnaise. Et la Côte Chalonnaise qui regroupe un certain nombre d'appellations que sont, par exemple, Givry, Rully...
Oui, Rully, c'est plus bon ça.
Centenay, et c'est un Centenay que je vous ai apporté aujourd'hui. Et Centenay, c'est une appellation qui est plutôt connue pour ses vins rouges.
Okay.
Plus de 90% de la production de Centenay est rouge, mais il y a un petit 10%, je crois 7-8% aujourd'hui, de vin blanc fait à Centenay, avec évidemment du Chardonnay, donc le même cépage qu'à Meursault. C'est fait par un très bon producteur, c'est le domaine de Bélène. Et cette cuvée, je trouve, finalement, vous allez le goûter, hein, se rapproche quelque part de ces grands esprits de vins de la région, de la Côte de Beaune, que sont ces vins de Meursault. Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, au nez, il est incroyable. Hein, quand même.
Il y a de la rondeur.
Ah oui,
est-ce que vous trouvez cette rondeur à laquelle vous êtes attaché?
Hein. Il est intéressant. Il a autre chose. Hein.
Il a une tension aussi. Là,
il a un truc un peu... Plus, il attaque un tout petit peu.
Oui, c'est ça.
Il a du nerf.
Une attaque vive.
Il a du nerf.
Il est intéressant. Hein.
Mais les vins blancs ont besoin de nerf. C'est toujours une question d'équilibre sur les vins blancs. Il faut la rondeur, ce côté qui va venir vous envelopper. Et après, derrière, il faut ce nerf, comme dit Yves, pour faire en sorte que la finale, notamment, soit dynamique, qu'on ait cette acidité,
combien,
ce petit mordant. Alors, les centenaires, c'est la moitié des prix d'un Meursault en moyenne.
Autour de 15 euros.
Voilà,
quoi.
Vous allez en trouver
12-15 euros.
De 15 à 20-25, suivant les climats, suivant les appellations et les producteurs. Et donc voilà, j'avais envie de vous faire découvrir ce
petit
travers.
Il a combien de degrés?
Alors je vais vous répondre tout de suite.
40.
Non.
Non, mais il a l'air.
Oui, il tape un peu.
Il est capiteux, on n'est pas loin des 14 degrés.
Voilà, c'est ça.
Ah oui, c'est ça.
Mais vous savez, aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, derniers millésimes sont des millésimes avec des degrés qui sont systématiquement assez élevés.
Et il y a un truc que j'aime bien, quand même, c'est qu'il va trop froid. Et je trouve qu'il faut faire gaffe à ne pas les servir trop froid.
Les températures, c'est très, comme les plats même, hein, comme la cuisine.
Oui, parce que sinon, vous les tuez.
On flingue les arômes.
Quand c'est trop froid.
Zabou Breitman, ça y est, c'est l'heure de passer sur le grill de notre questionnaire pour mieux vous connaître encore en cuisine et à table. Quel est le goût de votre enfance, cher Zabou?
Oh la vache, c'est difficile, j'ai du mal. C'est mon père qui cuisinait beaucoup. Qu'est-ce qu'il faisait? Oh non, voilà, parce que j'allais à la pêche avec mon père, alors la friture.
Ah, une belle petite friture.
On faisait des petites fritures. Et il faisait la mayonnaise, c'était super bon.
Le premier plat que vous avez cuisiné?
Alors, en plat, sinon, j'avais commencé par faire, comme beaucoup d'enfants, très petite, hein, j'ai commencé à faire des petits sablés, des choses comme ça. Mais le premier plat, vraiment, je sais que j'ai cuisiné des côtes de porc forestière avec des petits
cornichons. Sauce aux choux, charcutière.
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 Non, non, côte de porc, charcutière avec des petits cornichons parce que c'est très bon cette petite acidité là. Et j'avais cuisiné ça, je m'en souviens.
Ouais. C'est marrant, vous parlez beaucoup d'acidité.
C'est vrai, oui.
Bah, j'aime bien moi quand il y a un petit mélange.
Vous auriez pu travailler chez Trois Gros. Hein,
ah ouais, c'est vrai.
Acidité en colonne vertébrale. Vous avez travaillé avec Anne-Sophie Pic pour faire un burger, on le rappelle. Votre plus beau repas, Zabou Bretman.
Mon plus beau repas inoubliable. Oh, bah, ça a été dans un gastro-bas, justement. Je crois que c'est un des plus... Chez la Dame de Pique, je crois que c'était vraiment super. Mais je ne suis pas allée à Valence. Hein.
À Paris, oui.
À Paris, voilà. Mais il y en a plein d'autres. Et puis, parfois, il y a des repas dans des restaurants qui ne sont pas du tout des restaurants étoilés.
Bien sûr.
Et vous hallucinez de la délicatesse du plat. Donc, mon plus beau repas, je ne sais pas. J'ai oublié l'inoubliable. Excusez-moi.
Ah, c'est joli. Votre pire repas?
Alors, c'est un truc que j'ai fait, qui était monstrueux. J'avais fait de la lotte, donc en plus c'est un poisson très cher, hein,
oui.
Donc voilà, j'ai dit bon. Et j'ai mis un alcool dedans, c'était horrible, le goût n'allait pas, c'était comme un truc qui est madérisé, je sais pas comment dire, c'était horrible, atroce, j'avais tout gaspillé quoi.
Donc raté.
Non, ouais, raté, et récemment aussi j'ai fait un truc raté et je l'ai... Non, c'est pas possible.
Quel plat emmèneriez-vous sur une île déserte ?
J'ai été à Tahiti, j'ai eu cette chance,
ah, oui.
Et en fait je n'ai mangé qu'une seule chose quasiment, tout le temps. C'est la patate douce avec le lait de coco, avec le gingembre et avec le poisson, le thon blanc.
Du Pacifique.
Ouais, frais. Et la noix de coco fraîche, enfin, tout ça c'est frais. Je n'ai mangé que ça, je pense. J'aimais tellement ça que oui, je l'emporterais aussi sur une île déserte.
Vous l'avez expérimenté pour le coup.
Ouais.
Qui sont les invités de votre dîner idéal?
Oh là là! Oh là là! Mais je ne sais pas, il faut que des gens qui adorent ça, quoi, qui. Qui est-ce qu'il y a que j'aime tant ?
Et qui aime la table ?
Mais c'est ça, qui aime la table. Je sais pas. J'ai pas de réponse. Tous les gens qui veulent venir viennent.
Dorothy Parker ?
Ah bah je sais pas si. Ouais, on est comme elle dit, hein, on est sous la table. Hein.
Elle boira, c'est ça, oui.
Et après, elle dit au troisième gin, elle est au troisième martini, elle est sous le maître de maison. C'est quatrième, ouais.
et le mot de la fin, F-A-I-M, Zabou Bretman.
Oh, le mot de la fin, je dirais que. Je pense que c'est très important de savoir qu'on peut cuisiner pas très cher. Il faut absolument ne pas oublier qu'on peut cuisiner, de même qu'on peut boire des vins. Bon là, ils sont quand même encore chers, mais il y a des choses partout. En regardant, en étant curieux, on peut cuisiner des mets qui ne sont pas très chers. Il ne faut pas oublier
Bien
ça.
Bien sûr,
c'est
le
très
goût
important.
À petit coût, ça existe.
Oui.
Merci Zabou Bretman d'être
Merci
venu nous voir.
Merci de m'avoir invité.
C'est un bonheur. Merci. Et on va vous voir au Théâtre de la Porte Saint-Martin jusqu'au 23 octobre dans Dorothy Parker. Merci à mon équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucie Lescourot à la rédaction en chef, à la rédaction Julien Amat et Marion Sauveur, à la programmation et à la rédaction Claire Dutronc. Salut Loïc Vimard à la réalisation. Au revoir Monsieur Candebordes.
Au revoir tout le monde.
On vous retrouve dans vos beaux restaurants de Saint-Germain-des-Prés. Salut Olivier Pouls.
Bonne semaine mon cher Laurent, demain d'ailleurs pour vous.
Oui absolument, on vous retrouve dans Historiquement Vôtre du lundi au vendredi.
Mais moi je vous écoute le dimanche.
Oh, vous êtes sympa, on se retrouvera demain avec Amélie Nothomb à la table du dimanche et on va lui faire connaître la cuisine des Balkans avec la chef Cathy du restaurant hybride. Dans un instant, c'est Europe Midi Week-end avec Thierry Dagiral sur Europe 1. Bon week-end, les amis. Au revoir, Zabou Bretman.
Au revoir, merci.